C'est par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, que nous pouvons vivre dans cette lumière qui éclaire nos sentiers en ces temps difficiles, cette lumière qui nous permet de voir les obstacles qui sont devant nous et tourner nos regards vers toi afin que tu nous fasses la grâce de pouvoir les surmonter en vainqueur. Nous te remercions pour cela et nous sommes réunis ce soir au nom de Jésus-Christ, sachant qu'il est au milieu de nous lui-même, pendant que nous sommes à ses pieds, lui-même nous enseigne et nous montre le chemin à suivre. C'est notre exemple, puissions-nous avoir toujours les yeux ouverts, ne puissions-nous pas le perdre de vue. Puissions marcher toujours en le suivant, mettant nos pieds dans les empreintes de ses pas. Nous puissions marcher comme lui a marché. Et là où cela devient difficile pour nous, il y a une promesse du glorieux Saint-Esprit qui nous permet de nous faire marcher comme lui, en véritable Fils de Dieu. Puisses-tu trouver ton plaisir en nous, Seigneur, ce soir. Te bénissons, te remercions pour cette occasion. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Nous te demandons de bien vouloir nous inspirer ta parole et nous assister. Pendant que nous allons parler, tu aides-nous, Seigneur, que les idées humaines soient parties, mais que seule ta pensée puisse être exprimée. S'il y a des exemples à donner, que cela puisse vraiment, ô Dieu, coller avec le contexte. Et pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous vraiment, Seigneur, que ta grâce surabonde envers nous. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous lions ce soir dans Livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous asseoir. Nous allons parler aujourd'hui d'une recommandation que le Seigneur donne. Mais avant toute chose, j'aimerais juste dire ceci, ou en lisant cette brochure dans Le Dieu immuable, nous avons parlé de nos vaillants à la guerre, ceux qui avaient la foi. C'était des hommes vaillants à la guerre. Nous sommes en guerre, nos âmes sont exposées à une guerre, n'est-ce pas, contre les convoitises charnelles qui nous entourent chaque jour. Et l'apôtre Jean nous dit ceci dans 1 Jean 5, il dit, vous savez, notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Hein? Il dit, dans, c'est 1 Jean 5, je crois, verset 3, hein? Verset 4. Car, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident dans ce monde où il y a plein de tentations, il y a plein de sollicitations. Et ces commandements, en fait, ils ne sont pas pénibles. C'est Satan qui nous rend la vie difficile. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, le frère, ce jour-là, le jour où il a prêché, il devait faire une réunion de prière, une ligne de prière. Et tout à fait au début, il dit, j'essaie d'éveiller en vous la foi en Dieu. Et il est important que, pour que vous soyez vaillants à la guerre, que vous soyez ces vaillants, cette vaillante femme, ce vaillant homme à la guerre, n'est-ce pas, qui nous guette, eh bien, nous avons besoin de la foi. Et la foi vient de ce que nous entendons. J'essaie de veiller en vous la foi en Dieu avant de commencer ce service de guérison. Nous en avons besoin. Mais ici, ce soir, c'est afin de vous rendre vaillant à la guerre. Mais le sujet ce soir, c'est quoi? C'est ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre. Pourquoi ne faut-il pas s'éloigner de Jérusalem? Jésus leur demande, n'est-ce pas? Nous avons lu cela dans Actes chapitre 1er, et c'était même une recommandation, puisqu'il est dit, il leur recommanda, n'est-ce pas, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il y avait une promesse qui était en attente, qui était sur le point d'être accomplie. Et il ne leur a pas dit dans 10 jours, normalement c'était 10 jours après, mais il leur a dit dans peu de jours, n'est-ce pas? Et c'était une promesse que Dieu a faite, que le Seigneur leur a faite. Il dit, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et ce soir, si j'ai une recommandation à nous faire, à nous tous, c'est de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Qu'y a-t-il de spécial en Jérusalem? Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 2. Verset 2, il arrivera dans la suite des temps. La suite des temps, ça fait mention d'un temps bien particulier, quand le Seigneur le permettra, nous en parlerons, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations, toutes, y afflueront. J'ai reçu de la part d'un frère une vidéo où des frères ont trouvé dans leur recherche que le vrai Israël se trouverait au Congo. Ben, vous savez, moi je veux bien, mais il disait aussi ceci, que le Congo est mentionné dans la Bible. Alors moi j'écris au frère, je lui dis mais toutes les nations sont mentionnées dans la Bible. Amen. Absolument toutes. Il y en a qui sont nommées, qui nous sont données nommément, comme l'Iran, la Perse. C'est donné, n'est-ce pas? C'est dit. L'Éthiopie, il y a plein de nations. Toutes les nations sont nommées. D'autres, on donne juste une description de la nation. D'autres sont confondues dans la masse. Des nations, mais les nations, Dieu n'en oublie aucune. Il ne faut pas toujours partir dans des considérations faussement patriotes, qui ne sont vraiment pas patriotes, ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit du plan rédemption, de la rédemption, du plan du salut. Et c'est vrai que le Congo, il fait partie de nations qui sont décrites dans la Bible, la Belgique également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les nations y afflueront. Alors, si toutes les nations y afflueront, il y a la Belgique, il y a le Congo, il y a tout ce que vous voulez, qui afflueront là-bas. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, pour que nous puissions être enseignés de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Amen. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Qu'y avait-il de spécial à Jérusalem? La parole de l'Éternel. Ce qui signifie, ne vous éloignez pas de la parole. Ne vous en éloignez pas, il y a une promesse qui est sur le point d'être accomplie. Pour que la promesse s'accomplisse en vous, pour vous, eh bien, qu'est-ce qu'il devait... Et deuxième chose, première chose, il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem. Deuxième chose, il devait attendre. Attendre, c'est important. Nous devons apprendre à attendre. Souvent, Israël a failli lorsqu'il a fallu attendre. Attendre, ce n'est pas quelque chose de facile. Pendant que nous sommes là, nous attendons. Depuis le temps qu'on nous dit « Jésus revient », et nous attendons, nous attendons. Il y a des genoux qui finissent par fléchir, n'est-ce pas, ou par se fatiguer. Des mains, des bras qui chancellent, n'est-ce pas, qui fatiguent, des genoux qui chancellent, et tout ce que vous voulez. Bref, ça devient compliqué pour beaucoup dans l'attente. Et même les vierges sages, elles se sont endormies également avec les vierges folles. Alors, que faut-il attendre? Attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Luc 24, 49. C'est une promesse importante qui doit se réaliser dans notre vie. Avant de faire l'œuvre que le Seigneur leur a demandé de faire, d'accomplir, c'est-à-dire d'aller dans toutes les nations, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il est vivant ce soir. Amen. Alors, dans Luc 24, 49, il dit, c'est ça la promesse, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, restez-y, n'en sortez pas, ne sortez pas de Jérusalem, ne sortez pas de la parole, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous en avez besoin de cette puissance pour pouvoir marcher, en vainqueur, n'est-ce pas, combattre, prier, votre prière. Paul vous recommande dans nos combats contre ces esprits méchants dans les lieux célestes, Paul nous recommande, n'est-ce pas, de faire des prières, des supplications par l'Esprit. C'est important, parce que l'Esprit lui-même, dans Romains 8, nous dit, l'Esprit lui-même sait ce qui est convenable de demander, n'est-ce pas, et c'est par des soupirs inexprimables qu'il le fait. Et jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Et Dieu qui a promis, le Père qui a promis cela, il ne peut pas mentir. C'est tout simplement impossible qu'il mente. Ça va? Hébreux 6. S'il a promis une puissance qui doit nous revêtir, cette puissance, elle viendra à coup sûr et accomplira la chose pour laquelle Dieu l'aura envoyé. Hébreux 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire sa décision, il ne la changera pas. Elle est immuable. Intervint par un serment, il avait juré par lui-même, afin que par deux choses immuables, sa décision, le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Dieu peut faire toutes choses, mais Dieu ne peut pas mentir. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas mentir. Quand il faut qu'un mensonge intervienne dans ce qu'il fait, dans son plan, il doit faire appel à des esprits. Hein, qui ira séduire pour nous Akab? Et il y a un esprit qui vient d'en bas qui dit, moi je le ferai. Tu vas faire, alors Dieu lui demande, tu vas faire comment? Parce que Dieu ne sait pas comment le faire. Tu vas faire comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Vous voyez? Ah, Dieu dit, ah, si tu viens avec ça, tu le séduiras certainement. Dieu ne sait pas mentir. Il t'amène à ça. Donc, il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Notre espérance en nous, c'est Jésus-Christ qui vient nous chercher. Lorsque nous voyons, lorsque nous entendons ces guerres et ces bruits de guerre, lorsque nous voyons ces armes qu'on nous expose, avec lesquelles on nous menace et toutes ces choses, nous avons cette espérance qu'avant cela, nous serons partis parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il viendrait nous chercher. Salomon, en ce qui concerne les promesses, Salomon dit ceci. Les promesses que Dieu a faites depuis David son père, dans 1 Roi 8, verset 54, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il s'est levé donc, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Dites amen à ça. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Dieu exauce toujours. Toujours. Amen. Citation. Maintenant, ceci est immanquablement la vérité. Et jamais personne n'a demandé à Dieu quelque chose qu'il n'aurait pas reçu de Dieu s'il est venu avec un cœur sincère. Donc, Dieu a toujours donné ce qu'on lui a demandé parce que c'est lui qui nous a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez. » D'accord ? Dans Matthieu 21, il le dit. Avec foi. Il faut la foi. Vous le recevrez. Alors, si nous avons le cœur sincère, Dieu est dans l'obligation de nous donner. Dieu, cependant, le problème qu'il y a là, Dieu répond parfois d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. Vous voyez, le problème, c'est attendre. C'est pourquoi, dans le sujet ce soir, il y a deux parties. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais aussi attendre. Savoir attendre. Quand il leur a dit, vous aurez une puissance qui vous revêtira, enfin, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, quand il leur a dit ça, dans peu de jours, il ne leur a pas dit comment est-ce que cette puissance viendra. Il ne leur a pas dit comment cela se passera. Maintenant, ils pouvaient toujours venir avec eux. Ils pouvaient venir avec des supputations, se disant, ah, peut-être que, je ne sais pas, il y aura des chars qui vont tomber du ciel, ou bien je n'en sais rien. Ils vont avoir une certaine idée, mais personne ne s'imaginait que ça allait descendre comme des langues de feu. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de nouveau. À Jérusalem, où il y a eu un vent impétueux, ça a même attiré la foule est venue. Il y a quelque chose de nouveau qui n'est jamais arrivé. Et pourtant, la promesse, elle était vieille, depuis Joël. Quand Pierre dit, c'est ici ce qui a été prophétisé par Joël, les gens avaient leurs idées comment allait se passer, mais cela se passait à la manière que Dieu a décidé. Et pour nos prières, c'est pareil. Parfois, nous demandons à Dieu des choses, Dieu exauce, mais nous, nous avons une idée de la manière dont il va exaucer ça. Et on va voir, par exemple, le cas d'un monsieur qu'on appelle Naaman, 2 Rois 5. C'était un vaillant militaire. En tant que Syrien. Verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui combat. Et c'est Dieu qui a délivré les Syriens par Naaman. Ce n'est pas Naaman qui les a délivrés. Et pour montrer que Naaman était faiblard, ben, Dieu a laissé la lèpre l'attraper. Donc, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et les lépreux étaient bannis de la société. Alors, il y a le témoignage de cette jeune fille. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et donc, elle était la servante de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon seigneur, dont mon maître, était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alors, quand il a entendu ça, vous savez, quand on se noie, on s'agrippe à n'importe quelle branche. Oui. Alors, il a entendu ça, ben, tous les médecins de la ville, ils n'arrivaient pas, du pays, ils n'y arrivaient pas. Ben, pourquoi pas essayer ce que la petite fille dit ici avec conviction. Puisqu'elle le dit vraiment avec conviction. Et Naaman alla dire à son maître, il est parti chez le roi, lui dire, « Sire, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi lui dit, ben, « Va, rends-toi à Samarie, va là-bas, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël, n'est-ce pas, hein, pour qu'il te mette en présence du prophète. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent. La santé, l'argent ne peut rien pour la santé. 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Bon, il va arriver là-bas. Le roi d'Israël, quand il va apprendre ça, le roi dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Il va commencer à prier, à dire, mais cet homme, il me cherche des problèmes. Est-ce que moi, je sais guérir la lèpre, moi? Donc, le roi verset 7, après avoir lu la lettre, n'est-ce pas, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Vous voyez jusqu'où il en est arrivé. Et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez que ce Syrien cherche une occasion de dispute avec moi. Ça, c'est la conclusion du roi d'Israël. Maintenant, le prophète apprend ça. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alors, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée ne l'a même pas reçu. Il lui envoie un messager. Le messager lui apporte le message et dit, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Mais Naaman avait son idée de la manière que Dieu allait le guérir de sa lèpre. Il disait, « Naaman, quand il apprend ça, va te laver dans le Jourdain 7 fois. » Naaman s'irrite. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, tu n'as pas besoin de te dire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Oublie ce que tu te dis. » Il dit, moi je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, voilà, je suis le prophète. Il est déjà en position de faiblesse, mais bon. Et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira les lépreux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui? Alors il nous parle de l'abana et du parpar. Mais va te laver là-bas. Il n'a pas voulu, il a fait demi-tour, il voulait partir. Frère Abraham dit, écoute, si tu veux garder ta lèpre, garde-la. Et c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Nous avons des solutions, la solution à nos problèmes là-dedans. Soit nous faisons ce qu'il nous est demandé de faire. N'oubliez pas, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont éteint la puissance de feu. Comment ? Par la foi. C'est ça. Et il dit d'ailleurs, si quelqu'un... Il dit ceci, hein. Je ne voudrais jamais faire obstacle à quelqu'un qui a suffisamment de foi. Donc, quand quelqu'un a la foi pour quelque chose et que vous, vous n'avez pas cette foi-là, ne venez pas lui dire non, ça ne marchera pas. Mettez-vous à l'écart, laissez-le, n'est-ce pas, placer sa foi dans la chose. Si vous n'avez pas la foi, qui que vous soyez prédicateur ou autre, eh bien, maintenant, laissez ça tranquille. Laissez quelqu'un agir selon sa foi. Quand je vois un frère ou une sœur qui est malade, qui a un problème, et bon, on me dit, frère, j'ai tel problème, le médecin a diagnostiqué tel problème chez moi. Ah, oh là là, frère, sœur, frère, il faut te faire opérer. Moi, je veux lui dire ça. Ça, c'est ma pensée à moi. Mais si le frère ou la sœur me dit, non, 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 frère, moi, je guérirai. Moi, je veux lui dire, ben, qu'il en soit fait selon ta foi. Je ne peux pas lui dire, mais non, tu sais, les médecins, c'est aussi Dieu qui... Non, non, c'est vrai que c'est Dieu qui les place. Mais si la personne a sa foi pour être guérie, prie pour la personne, laisse-la exercer sa foi. Amen. Vous pouvez toujours lui demander, n'insistez pas trop parce que vous allez le faire douter. Hein, vous pouvez, tu es sûr de ce que tu dis? S'il vous dit, je suis certain, ben, amen. Réjouissez-vous. Et puis après, n'allez pas propager des choses disant, oh là là, le frère est mal en point, je crois que... Je lui ai dit d'aller chez le médecin, il n'a pas voulu. Taisez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, citation... Donc, Dieu, cependant, répond parfois d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. Mais n'oubliez pas, toutefois, Dieu s'en tient toujours à sa parole. Ne vous en éloignez pas. C'est impossible que Dieu vous dise quelque chose qui ne soit pas vrai et qu'il reste néanmoins Dieu. Il doit s'en tenir à sa parole pour toujours. C'est la vérité. Ça, c'est une citation. Dans Romains 4, Paul nous dit ceci. Frère François, on a fait des veillées, on a jeûné à l'Assemblée, mais ça n'a pas marché. Sincèrement, je n'ai pas la réponse à ça. Mais la parole de Dieu reste valable. Elle reste la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai demandé quelque chose, ça ne s'est pas passé comme je voulais, que je vais mettre la parole en doute. La parole est la vérité. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi... Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, il faut attendre avec foi. Si vous attendez l'enlèvement aujourd'hui, attendez avec la foi qu'il y a un enlèvement qui va s'accomplir. Amen. Même si je vous dis que moi, je ne verrai pas la mort, mais parce que je serai enlevé, eh bien, si malgré tout, je meurs quand même, que cela ne vous ébranle pas. L'enlèvement aura bien lieu. La seule chose qui peut vous ébranler, que l'on vous dise qu'effectivement, l'enlèvement a déjà eu lieu. Ça, effectivement, ça devrait ébranler. Ça va? Citation. Toujours dans. Chaque promesse qu'il a faite, chaque promesse. Salomon a dit, aucune n'est restée sans effet. Chaque promesse qu'il a faite est la vérité absolue. La vérité absolue. Ne doutez pas. Tant que c'est une promesse divine, la promesse est à vous. Il nous a promis un Saint-Esprit, la promesse est à nous. Et le Saint-Esprit est une puissance. C'est une puissance d'en haut, comme il le dit. Et regardez comment le Saint-Esprit a changé ces gens qui étaient des peureux, n'est-ce pas? Qui étaient des poltrons. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont sortis dans les rues et ils ont commencé à marcher même en titubant, ne craignant pas qu'on se dise qu'ils sont bourrés, qu'ils sont ivres. Oui. Donc dans Acte 2, Pierre dit, d'abord, après avoir, verset 37, après avoir entendu ce discours, les gens qui étaient là, la multitude, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, ce don du Saint-Esprit, verset 39, c'est une promesse. Amen. Car la promesse, elle est pour vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous dites, oui, mes frères François, ça c'est pour ceux qui étaient là. Oui, bon, d'abord, d'ailleurs, ok, pour leurs enfants, pour vos enfants. Amen. Amen. Oui, mais c'était pour leurs enfants. Et oui, et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Au loin dans les années. Amen. Au loin dans les siècles. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cette promesse est valable. Amen. Et attendez, attendez de le recevoir, attendez avec foi. Amen. Et vous le recevrez certainement. Amen. Mais quand vous attendez, restez à Jérusalem. Amen. Ne vous en éloignez pas. Ça va? Si vous l'attendez en vous éloignant de Jérusalem, ça pose problème. Pour ça, c'est pour les promesses. C'est la même chose pour les prophéties. Quand Dieu fait une prophétie, une chose est sûre, la prophétie doit s'accomplir. On doit aussi attendre. Habakkouk chapitre 2. Première phrase, verset premier. J'étais à mon poste. Dites amen à ça.
Amen.
Il n'était pas au marché. Dites amen à ça.
Amen.
J'étais à mon poste. Et voilà, me recommande toujours que nous soyons à notre poste. À notre poste du devoir. Ne nous laissons pas distraire. Nous sommes en attente d'une promesse.
Amen.
Nous sommes en attente de voir aussi certaines paroles, certaines prophéties s'accomplir.
Amen.
Et on ne doit pas s'éloigner de Jérusalem. On doit s'en tenir à la parole. Quand on me dit que le Congo
n'est-ce pas? En fait, c'est le vrai Jérusalem. Moi, j'ai dit, frère, tu sais, Jérusalem, Israël, le vrai Israël, il faut le situer d'abord par rapport à Morija. Au mont Morija. Alors, si le mont Morija est au Congo, ok. Non seulement ça, il faut aussi s'en tenir au fait que Jérusalem, c'est là où Jésus-Christ a pleuré, disant « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins ?» Moi, je serais content si j'étais au Congo, mais de toute façon, ça ne change rien. Je dois toujours avoir une attitude de foi. C'est comme si un Israélite venait aujourd'hui se vanter disant que c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Oui, mais si tu ne le sers pas, si tu n'es pas dans sa parole, ça ne sert à rien. Parce que quand il leur parlait, Jésus-Christ parlait, même à ses disciples, c'était toujours, si vous demeurez dans ma parole. C'est très important. Il ne faut pas partir de là. Et ici, le poste, votre poste, c'est important. Parce que Dieu va parler. C'est sa promesse, il a dit. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est sa promesse. Ça. J'étais à mon poste, à Habacouc. Et je me tenais sur la tour. Lui, son poste, c'était sentinelle. C'est là qu'il devait être. Il devait être sur la tour. Je veillais. Veillez et priez. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Dites amen à ça. Maintenant, je veillais aussi pour voir ce que moi, je répliquerai après ma plainte. Si vous voulez lire la plainte, lisez le chapitre 1er. Oui. Alors, parce qu'il était à son poste, parce qu'il était là où il devait être, et qu'il attendait avec foi que Dieu allait lui parler, eh bien, Dieu lui a parlé. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Écris-la. Grave-la sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Jésus dit à ses disciples, dans peu de jours, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, il savait quand. Il savait que c'était 10 jours après. Il le savait. Mais il leur a dit dans peu de jours. Ici, donc le temps était déjà fixé. Parce que si vous regardez la prophétie de la Pentecôte dans Lévitique 23, vous allez voir que ce sont des événements dont le temps est fixé. Vous savez ça? On peut y aller, hein, on retient Habacouc. Lévitique 23. Je vous dis, la date de l'enlèvement, hein, elle est déjà fixée. Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais le Père seul. Le Père le sait. Lévitique 23, verset 4, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et la Pentecôte, c'est celle qui nous est donnée, n'est-ce pas, à partir du verset 15. C'est la prophétie de la Pentecôte, en ce qui concerne les fêtes. Mais on revient dans Habacouc, et il dit, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, la prophétie, elle marche vers son terme. » Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dites amen. Attendez-la. Attendre, attendez avec foi. Amen. Ne vous éloignez pas de la parole. Amen. Comment est-ce que ça se passera? Selon la parole. Amen. Comme Salomon dit, de toutes les promesses de Dieu, tout s'est réalisé selon la parole de Dieu. Amen. Selon ce qu'il avait dit. Si elle tarde, attends-la, car la prophétie s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ouais. Frère nous recommande de ne pas faire de Dieu une idole. Il dit, le problème avec les gens est comment ils voient Dieu. Souvent, nous voulons faire de lui une idole. Nous prions Dieu de faire quelque chose et puis il doit le faire comme nous le lui avons demandé. Non. Dieu va nous donner comme lui a décidé.
Amen.
Vous savez, Paul, regardez Paul comment il fait, comment il a attendu la réalisation, l'exaucement d'une prière. Romains chapitre 1er. Verset 5. Par lui, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Une fois, j'ai parlé d'une fête qui avait été organisée, assemblée. J'avais dit, il n'y a rien de chrétien dans tout ça. C'est païen. Les bien-aimés étaient fâchés. Alors je lui ai dit, mais moi, je suis un païen. Nous sommes des païens. Paul dit aux Romains, vous êtes des païens. Les Romains ne se sont pas fâchés. On se fâche vite pour peu de choses, hein. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous sommes des païens. Dieu nous a fait grâce.
Amen.
À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, maintenant nous sommes appelés saints par vocation.
Amen.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, écoutez ceci. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, ça veut dire je le remercie. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Premièrement, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Oui, donc Paul avait ce besoin d'aller à Rome. Il a entendu sa prière. Maintenant, Paul pouvait s'imaginer comment est-ce que Dieu va faire. Peut-être que Dieu va aller lui faire tomber un billet de bateau pour qu'il puisse aller à Rome. Ou alors, je ne sais pas moi, Dieu allait lui envoyer un cheval ou un chameau, que sais-je. Non. Paul, Dieu a exaucé sa prière. Il est allé à Rome. Mais il est allé dans des conditions difficiles. Mais c'était la voie que Dieu avait choisie pour exaucer la prière de Paul. Et Paul est allé à Rome en tant que prisonnier. C'était l'exaucement de sa prière. Alors parfois, vous passez des moments difficiles dans certaines situations, mais en fait, c'est l'exaucement d'une prière que vous avez faite. Remerciez Dieu. C'est pour cela que Job dit, nous recevons de Dieu les bons et les bonnes et les mauvaises choses, tout cela arrive, mais remercions-le. Nous le remercions pour les biens, nous le remercions aussi pour les maux, mais tout ça concourt pour notre bien. Paul, dans Actes 23 déjà, on va l'arrêter, et Paul, voilà, on va l'arrêter, et finalement, il va demander en arriver à Rome, Paul va partir à Rome enchaîné et à fond de cale. Et il est parti à Rome, Dieu exaucant ses prières. Amen. Les voies de Dieu, elles sont insondables. Attendons seulement avec foi, même si les choses semblent tourner carrées, n'est-ce pas? Ça ne tourne pas bien. Sachez que Dieu entend les prières. Il a entendu vos prières. Ne murmurez pas. Parce que quand vous murmurez, Dieu dit, vous obscurcissez ses desseins. Alors, remerciez-le. Quand vous en avez l'occasion, rendez-lui grâce. Dieu, c'est lui qui nous a appris à prier. Qui d'entre nous ici a suggéré à Dieu de nous montrer comment prier? Qui lui a demandé de nous donner ses... Non, il a dit lui-même, il a dit tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Ce que vous demanderez, est-ce que moi je lui ai suggéré ça? Non. C'est lui-même qui me le dit. Alors s'il me le dit, c'est pas pour me mentir, il a envie de le faire. Alors, comme j'ai envie de quelque chose, de que Dieu fasse quelque chose, je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu. Maintenant, lorsque je termine ma prière, je lui dis merci de m'avoir permis de te demander ça. Parce que je sais que je l'ai déjà. Dieu vous l'accordera. Si vous avez la foi, dites pas parce qu'on vous l'a dit ici. Non, dites-le, vous êtes certain de ce qui va se passer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Savoir attendre. Il faut attendre avec foi. Et ne vous éloignez pas de la parole. Tenez-vous-en à la parole. Toujours. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai oublié de vous donner les salutations du frère Constantin. Il est bien arrivé en Égypte pour quelques jours et est parti en vacances. On est de saluer l'Assemblée. Prions au Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, ta grâce. Nous voyons. Toi qui ne peux mentir, toi qui es fidèle, tu restes fidèle à tes promesses. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Et nous savons que tu en es capable. Il nous est dit que celui qui s'approche de toi doit savoir que tu existes et savoir aussi que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh Dieu, tu es celui qui exauce les prières. C'est vrai, nous ne venons pas sur base de nos bienfaits, de ce que nous avons accompli ta volonté, mais Christ l'a fait pour nous, c'est pourquoi nous nous approchons de toi, toujours d'un cœur sincère, en son nom béni, au nom de Jésus-Christ, sachant que lui, il a accompli exactement tout ce qu'il a, il a accompli tout ce que tu exigeais de nous, et il a accompli pour nous. Aussi, nous te remercions pour toutes choses, et nous te remettons maintenant, Père Céleste, notre fin de semaine, ô Dieu, sous ton contrôle, nous voulons, comme nous disons, nous attendre à toi avec foi, sachant que tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis, que nous déposons à tes pieds, et nous te disons déjà merci de ce que tu t'en charges. Puissions-nous maintenant nous charger également de devoirs que nous avons vis-à-vis de toi, c'est-à-dire garder le commandement, serrer ta parole dans nos cœurs, ne pas nous en éloigner ni à gauche ni à droite, ô Dieu, afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Ô Dieu, parfois la réussite peut sembler être une défaite, mais ça reste Devant toi, ça reste une réussite parce que toi, tu peux changer une défaite en réussite. Et tu peux même changer une réussite en défaite. Tu peux faire toutes ces choses dans le cas de nos ennemis. Mais pour tes bien-aimés, tu fais de sorte que tout se passe pour leur bien. Sois béni, Père. Merci pour cela. Nous ne méritons pas ces choses, mais tu le fais tout simplement par ta bonne grâce et nous t'en sommes reconnaissants infiniment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié, nous te remercions de ce que ton Fils a bien effectué son voyage jusqu'en Égypte. Tu l'as gardé, ô Dieu, toi qui l'as gardé à l'aller, tu es aussi celui qui le gardera au retour. Garde-le pendant son séjour, Père, et si tu tardes à venir, que nous puissions encore nous retrouver et te louer ensemble, te servir ensemble, t'adorer ensemble, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de maman Isabelle. Vous savez que les funérailles de sa sœur ont eu lieu aujourd'hui. Mais, non, ça va. Malgré tout cela, elle salue l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.